Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Moyen-Orient, Donald Trump a déclaré que la situation avec Téhéran était sur le fil entre un accord pour mettre fin à la guerre et une reprise des frappes contre l'Iran. Les militants étrangers de la flottille pour Gaza, capturés en mer par Israël, doivent commencer à être expulsés aujourd'hui, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention. On y revient dans notre dossier du jour à suivre. Et les chefs de la diplomatie française et marocaine ont annoncé à Rabat qu'une visite d'État du roi Mohamed VI en France était programmée, avec en amont une réunion de haut niveau prévue en juillet dans la capitale marocaine. Début de ce rendez-vous d'information par l'actualité au Moyen-Orient. Donald Trump a déclaré que la situation avec Téhéran était sur le fil entre un accord pour mettre fin à la guerre et une reprise des frappes contre l'Iran. Le principal négociateur iranien a accusé les États-Unis de vouloir déclencher une nouvelle guerre contre son pays. Et l'Iran dit examiner une nouvelle proposition des États-Unis dans le cadre de la visite à Téhéran du ministre pakistanais de l'Intérieur dont le pays est médiateur. Et un responsable des Émirats arabes unis a qualifié de chimère le projet iranien de contrôle du détroit d'Ormuz qui couvre une zone allant jusqu'aux eaux du sud du stratégique port émirati de Fujairah. Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur la situation. La fermeture prolongée du détroit d'Ormuz risque de provoquer un choc agroalimentaire systémique susceptible de déclencher une grave crise mondiale des prix alimentaires dans les 6 à 12 mois. Situation au Liban maintenant. Le pays est en situation de péril, a annoncé ce matin Jean-Yves Le Drian, l'envoyé spécial du président français pour le Liban, tout en saluant la poursuite des discussions qui offrent une perspective, selon ses mots, de sortie du conflit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. En Israël maintenant, le ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a provoqué un tollé au sein même de son gouvernement et à l'étranger en publiant une vidéo de militants d'une nouvelle flottille pour Gaza, agenouillés et les mains liées après arrestation en mer. Israël a annoncé organiser leur expulsion à partir d'aujourd'hui et on y revient plus largement dans notre dossier du jour à suivre. Dans le reste de l'actualité, en Russie, une attaque de drones ukrainiennes a tué 2 personnes dans la région russe de Samara, plus de 800 km de l'Ukraine, selon le gouverneur local. Kiev revendique avoir mené une frappe contre une raffinerie. Les chefs de la diplomatie française et marocaine ont annoncé à Rabat qu'une visite d'État du roi Mohamed VI en France était programmée, avec en amont une réunion de haut niveau prévue en juillet dans la capitale marocaine. Et on écoutera à ce sujet le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans notre dossier du jour. En France, 17 ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009 dans l'Atlantique, la Cour d'appel de Paris rend ce jeudi sa décision dans le procès pour homicide involontaire d'Air France et d'Airbus, relaxé en première instance. Et enfin, de fortes chaleurs vont s'installer sur le pays dans les prochains jours, avec des températures dépassant les 30 degrés ce jeudi et atteignant 36 degrés vendredi dans le sud-ouest, sans que l'on puisse parler de canicule selon Météo France. C'était votre point d'information. Merci pour votre écoute. À suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier en Israël. Hier, le ministre d'extrême droite israélien, Itamar Ben-Gvir, a provoqué une indignation internationale. Son comportement a été désavoué jusqu'au sein même de son gouvernement. En cause, une vidéo qu'il a publiée montrant des militants de la flottille pour Gaza agenouillés et les mains liées. Israël annonce organiser leur expulsion à partir d'aujourd'hui. Vos précisions, Marco Albarez.
Des images inacceptables, même pour Benjamin Netanyahou. Pour lui, elles ne sont pas conformes aux valeurs d'Israël. Gideon Sar, le ministre israélien des Affaires étrangères, parle lui d'un spectacle honteux. Il accuse son collègue d'avoir sciemment nui à l'image du pays. Alors qu'est-ce qu'on observe dans cette vidéo? Sur fond d'hymne national israélien, on y voit Itamar Ben-Gvir se mettant en scène, triomphant, lançant la phrase suivante: bienvenue en Israël, nous sommes chez nous. Et à côté, alors, des dizaines de militants pro-palestiniens, ils sont tous agenouillés, poings liés et visage collé au sol. Au passage du ministre, une jeune femme crie « Libérez la Palestine » et se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité.
Et ces images ont provoqué beaucoup de réactions à l'international, hein, Marco Arquette.
Oui, et particulièrement de la part des pays dont des ressortissants ont été arrêtés. La France, d'abord, condamne des agissements inadmissibles et convoque l'ambassadeur israélien. L'Irlande se dit consternée et choquée. L'Italie exige des excuses et la Pologne des conséquences. Bref, l'indignation est globale. La Turquie, pays depuis lequel était partie la flottille, s'est montrée la plus virulente jusqu'à aujourd'hui. Ankara dénonce, je cite, la mentalité barbare du gouvernement israélien. D'ailleurs, la Turquie a annoncé qu'elle allait organiser aujourd'hui des vols pour rapatrier les militants. Militants qui sont actuellement transférés vers l'aéroport de Ramon au sud d'Israël pour être expulsés.
Merci Marco Relbarès pour toutes ces précisions. Second dossier, relations entre la France et le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a annoncé hier à Rabat qu'une visite d'État du roi Mohamed VI en France était programmée, avec en amont une réunion de haut niveau prévue en juillet dans la capitale marocaine. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Ma présence aujourd'hui nous a aussi permis de préparer l'agenda du partenariat bilatéral franco-marocain. Il le fallait bien car cet agenda va être très dense dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous nous retrouverons en effet prochainement à Rabat pour notre 15e séminaire intergouvernemental, la réunion de haut niveau. Elle nous permettra de faire un point d'étape du partenariat d'exception renforcé, notamment pour ce qui concerne les coopérations entre nos administrations. Et nous nous préparons aussi à accueillir Sa Majesté en visite d'État en France, ce qui sera un jalon historique pour les relations franco-marocaines. Je voulais revenir sur quelques points qui me semblent à cet égard essentiels. D'abord, beaucoup a été fait depuis la visite d'État de l'automne 2024. Les chefs d'État avaient fixé une feuille de route claire et ambitieuse. Nous l'avons mise en œuvre en veillant à faire grandir encore l'élan qui entoure notre partenariat. Aujourd'hui, je veux vous dire que tous les moteurs de la relation franco-marocaine tournent à plein régime. Nous avons réactivé un potentiel commun et des réflexes franco-marocains. Nos entreprises, nos administrations, nos scènes culturelles et artistiques, en fait nos deux peuples, se connaissent bien depuis longtemps et vont facilement l'un vers l'autre. C'est peut-être une évidence, mais je veux le rappeler et dire que ces liens à nul autre pareil sont pour nous un atout extraordinaire.
Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Il s'est également exprimé sur la question du Sahara. Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans la souveraineté du Maroc. Ce sont ses mots. On l'écoute.
Je veux revenir sur la question du Sahara, que je sais existentielle pour le Maroc, mais qui est aussi stratégique pour la France et pour la région. Vous connaissez la position de la France, comme l'a écrit le président de la République à Sa Majesté le Roi. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et le plan d'autonomie proposé par le Maroc est la seule base d'une solution politique, juste, durable et négociée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2797, s'est inscrit dans cette logique. Je ne peux que saluer cette dynamique positive, ainsi que la reprise de discussions directes entre toutes les parties prenantes sur la base de ce plan d'autonomie. J'émets le souhait qu'elle puisse aboutir rapidement, car ce conflit n'a que trop duré. Dans l'attente de ce règlement définitif que nous appelons de nos voeux, la France reste à l'initiative. Nous n'attendons pas pour soutenir les importants efforts entrepris par le Maroc pour développer ces régions et agir au bénéfice des populations qui y résident. Comme je l'avais annoncé en 2024, nous avons désormais accru notre présence consulaire et nos activités culturelles avec l'ouverture d'un centre de dépôt des demandes de visa et la création d'une alliance française à l'AIU. Nous venons d'y inaugurer une nouvelle école, nos entreprises y investissent, l'Agence française de développement et nos opérateurs les accompagnent et cela ne fait que commencer.
Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Dernier dossier, c'est un scrutin important et pourtant il est peu mis en lumière. Les élections des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. Ils participent à la représentation des Français établis hors de France. Coup d'envoi le 30 mai pour le continent américain et les Caraïbes et le 31 mai 2026 pour le reste du monde. Il sera possible de voter en ligne dès demain à midi jusqu'au mercredi 27 mai. Radio Orient s'est entretenu sur ces élections avec la ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français de l'étranger, Éléonore Carroix.
C'est un scrutin très important. Les 3 millions de Français qui vivent hors de France, les Français de l'étranger, dont je fais partie, parce que j'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'étranger, ont la possibilité de voter pour élire des représentants locaux, des représentants qui siègent auprès des ambassades et des consulats et qui s'occupent notamment de l'attribution des bourses scolaires, du soutien à la population française, car non, les Français de l'étranger, contrairement aux idées reçues, ne sont pas tous des exilés fiscaux, loin s'en faut. Ce sont des gens qui ont décidé à un moment donné de leur vie, de leur carrière, par amour pour le travail, etc., de vivre à l'étranger, et ce sont souvent nos meilleurs ambassadeurs. Alors ces Français, ils ont la possibilité d'élire des représentants locaux, ils sont appelés à le faire, ils ont la possibilité de voter par Internet, vous avez rappelé les dates, ou alors le vote à l'urne, le 30 mai pour le continent américain et le 31 mai pour le reste du monde. Et c'est très important, si des Français de l'étranger nous écoutent, qu'ils le sachent et qu'ils se mobilisent, qu'ils puissent aller voter. La participation est relativement faible car ce sont des élections qui sont encore assez méconnues, mais très importantes. Et d'ailleurs, ces conseillers des Français de l'étranger sont ensuite des grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger, car il faut le savoir, les Français de l'étranger ont aussi une représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et moi, j'ai été députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Et je peux vous dire que c'est important de pouvoir porter la voix des Français qui vivent à l'étranger, qui ont des réalités très différentes de celles que nous avons en France et qui contribuent à enrichir le débat national.
Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français de l'étranger. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.